Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Dmoni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Sahel, comment faire face à l'instabilité politique? Sur le thème du Grand Dialogue, depuis ce vendredi matin, 30 septembre 2022, la situation est confuse au Burkina Faso. Des soldats se seraient mités dans la capitale Ouagadougou. Le président de la transition, lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a appelé la population au calme et à la prudence. Cette tentative de putsch intervient 9 mois seulement après le coup d'État contre le président Roch Kabore. Au même moment, une tension existe entre le Mali et la Côte d'Ivoire suite à l'arrestation des soldats ivoiriens par Bamako. Une mission de haut niveau de la CEDEAO est arrivée hier à Bamako et rentrée sans la moindre déclaration. Pourquoi la sous-région est de plus en plus instable? Comment faire face à cette instabilité? Studio Tamani pose donc le débat avec ses invités. Cheikh Oumar Doumbia, politologue, Bakabini Keïta, du directeur de l'Observatoire du pouvoir et de la société, Boubacar Boukoum, analyste politique, Ibrahim Ben Mamata Touré, juriste, je suis Imran Akil Omega, invité, auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Bakabini Keïta, dites-nous, quel commentaire faites-vous de la situation qui prévaut actuellement au Burkina Faso?
Pour le moment, il m'est difficile de faire un grand commentaire, puisque vous-même vous avez dit que nous sommes dans la phase de la tentative de coup d'État. Donc ça veut dire que les choses ne sont pas pour le moment confirmées. Donc la situation peut évoluer à tout moment, dans un sens comme dans un autre. Donc dans ces conditions, c'est extrêmement difficile. Mais tout ce que je peux quand même dire, c'est de dire tout simplement que les coups d'État n'interviennent pas, un peu pour reprendre le terme de Marx qui dit que les philosophes ne sortent pas des terres comme des champignons. Donc les coups d'État également ne viennent pas comme ça au hasard. Donc il y a des origines bien précises et entre autres. Évidemment, on peut parler de mauvaise gouvernance, vous savez tout simplement, et quand on parle de mauvaise gouvernance, il y a la question de l'insécurité qui se pose. Il y a juste quelques jours, le Burkina a connu quand même un massacre extrêmement important. Il y a des gens qui parlent de 80 morts, mais j'entends même de plus de 200 morts. Donc il y a la mauvaise gouvernance, mais il y a aussi les mécanismes régionaux, sous-régionaux et même internationaux de gestion également des conflits. Vous savez, chaque fois quand il y a les coups d'État, les gens se précipitent, notamment la CEDEAO, à fixer un délai pour que les poussis se rendent au pouvoir. Donc sans regarder, comment dirais-je, à fond, les réels problèmes qui entraînent les coups d'État, les régler et ensuite, en tout cas, aller vers l'organisation des élections. Tout ce qui les intéresse, c'est d'organiser les élections. Bon, or, à mon avis, je ne crois pas que la démocratie pourrait être, tout simplement, on pourrait le prendre tout simplement au sens du principe. Si, effectivement, elle ne peut pas aller sans les principes, je suis d'accord. Mais en même temps, il faudrait que nous regardions la réalité en face. J'aime tout le temps rappeler ça, que les gens aiment ramener le principe à un seul principe, le principe formel. Alors qu'il y en a trois. Il y a le principe formel, mais il y a le principe de réalité et il y a, comme en troisième position, l'adéquation entre le principe formel et le principe de réalité. Donc malheureusement, les mécanismes de gestion de l'instabilité dans nos États, notamment la gestion des coups d'État, ignorent ou en tout cas ferment les yeux sur les autres principes et font prévaloir tout simplement, ou plutôt font prévaloir le principe formel sur les autres principes, à savoir le principe de réalité et l'adéquation entre les deux. Mmh. Et donc, moi, personnellement, je me suis dit que s'il y a aujourd'hui coup d'État au Burkina Faso, tout ce que je peux dire, si c'est dans le sens, en tout cas, restaurer la dignité, l'honneur, la liberté et le bonheur du peuple burkinabé et au-delà de l'Afrique, moi, en tout cas, personnellement, je soutiens ce coup d'État. Donc, je sors des principes. Et donc, je fais face à la réalité. Parce qu'une démocratie qui ne sert pas l'honneur, la dignité, la liberté du peuple, à quoi elle sert? Et donc, si c'est dans le sens, en tout cas, à remettre en cause...
C'est la démocratie qui règne actuellement au Burkina Faso. Est-ce qu'on peut parler de démocratie?
Non, on ne peut pas parler de démocratie, mais en même temps, on peut parler de recherche. On est sur la voie à aller vers la démocratie. Et donc, ça, c'est un de deux. Il faut aussi comprendre que les gens ont une très grande méconnaissance même de la question de démocratie, parce que c'est une question qui est très discutée, même en Europe, même en Occident. Les gens pensent tout simplement, lorsqu'on parle de démocratie, il faudrait tout simplement voir un régime issu des élections. Alors que le sens de la démocratie est tellement vaste et qu'on saurait également se contenter effectivement d'une démocratie qui nous serait venue de quelque part. Et puis, ne pas comprendre que les peuples également peuvent adapter, évidemment, la démocratie en fonction, effectivement, de leur réalité socio-culturelle bien déterminée.
D'accord. Je rappelle, en tout cas, à nos auditeurs et téléspectateurs qu'au moment où nous diffusons ce débat, la situation reste confuse au Burkina Faso. Il a parlé tantôt du massacre dans le Sahel de Burkina Faso. Est-ce à dire que ce massacre serait à la base de... cette situation qui prévaut en ce moment au Burkina Faso?
Ben, avant de répondre à votre question, c'est de dire d'abord qu'au-delà du fait d'être analyste, je suis président du Parti africain pour l'intégration et la souveraineté, donc une aile politique. Ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est de ne pas dire que ce sont les massacres seulement qui ont causé aujourd'hui ce problème au Burkina. C'est un ensemble de phénomènes, ce n'est pas seulement les massacres. Pendant très longtemps, nous savons que depuis que ce qui s'est passé au Mali et que le Mali a changé de paradigme en ayant comme partenaire stratégique la Fédération de Russie. On sait que les lignes ont bougé, même si certains ne sont pas totalement d'accord. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, l'armée malienne a une posture très avancée et fait beaucoup dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Donc, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. De tout le temps, on a considéré que nos chefs d'État n'ont pas suffisamment pris en compte les besoins essentiels de la population. Et depuis le coup d'État, vous l'avez rappelé, depuis 9 mois, rien n'a pratiquement changé au Burkina. C'est le même postulat, avec cette même forme d'assistance, et le système de gouvernance n'a pas évolué. Donc il y a une attente très grande de la population du Burkina Faso qui n'a pas été comblée. Donc, effectivement, ces éléments additionnés effectivement à la chérité de la vie, à la mauvaise gouvernance et à l'insécurité, tous ces éléments fusionnés vont finalement donner un cocktail Molotov qui, effectivement, à tout moment, peut faire sauter un régime. Donc, je pense que c'est l'ensemble de ces éléments aujourd'hui conjugués qui font qu'aujourd'hui, le Burkina est dans cette difficulté. Maintenant, ce que mon co-débatteur, M. Bakabini, a eu à dire, c'est de dire qu'effectivement, on parle de démocratie sans en prendre en réalité la mesure et le contour. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Occident même ne veut pas que nous, on ait des démocraties chez nous, parce que tout est fait. Parce que quand il dit tout de suite que on se précipite d'aller aux élections. Mais ils le savent très bien que le problème, ce ne sont pas les élections. Chaque fois qu'il y a eu un coup d'État, c'est des gens qui sont élus sur la base démocratique, qui ont effectivement amené le pays à aller dans l'implosion. Et ils le savent. Donc, en réalité, l'objectif pour eux, c'est d'avoir juste des gens qu'ils peuvent contrôler. Donc, faire rapidement des élections sans résoudre le problème de fond permet toujours de garder la main, parce que le peuple aura l'impression que l'homme qui dérangeait, qui gouvernait mal, est parti. Donc, on fait un changement sans le changement. Ça veut dire qu'on amène un autre élément, un autre collaborateur, parce que c'est de ça qu'il choisit. Tous ceux qui collaborent avec le cartel bancaire financier, avec les intérêts des pays occidentaux, effectivement, vous êtes adulés. Maintenant, dès lors que vous n'êtes pas dans cette posture, vous devenez un renégat. C'est ça la réalité. Donc, chaque fois qu'on essaie de faire vite des élections, c'est de nous dire, oui, cet élément, nous allons le mettre à la poubelle, mais on vous amène une nouvelle carte, mais qui va jouer exactement le même rôle, qui aura une autre durée de vie. Ça veut dire que chaque carte apatride qui est portée sur des élections a peut-être une durée de vie de 5 ou 10 ans. Donc chaque 5 ou 10 ans, nous allons changer une carte, mais le fond reste le même. Maintenant, le peuple dit, ça suffit. Nous n'avons plus besoin de changer les hommes, mais nous voulons plutôt changer le système lui-même, qui nous pose énormément de problèmes. Donc, chaque fois qu'on est confronté à ces problèmes, même si vous changez les hommes, le système étant toujours là, le peuple va toujours se rebeller contre ce système-là.
– On vous entend parler, est-ce à dire que cette situation qui prévoit actuellement était prévisible ?–
Mais bien entendu qu'elle était prévisible, parce qu'on a compris que Damiba n'avait pas une position claire. Tantôt, il lorgne un peu du côté de Bamako, tantôt il lorgne du côté de Macron. Ben voilà, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. En même temps, soit vous assumez les positions de façon claire. Donc le peuple même, à un moment donné, doutait de la posture et de la sincérité même de Damiba.
D'accord. Je rappelle que les autres co-débatteurs sont en cours de route. Il s'agit de Cheikh Oumar Doumbia, qui est politologue, et Ibrahim Benmamata Atouré, qui est juriste. Dites-nous, pourquoi les États de la sous-région sont de plus en plus fragiles ? Bakabini.
Bon, écoutez, il a dit, le problème, effectivement, l'autre problème, effectivement, de l'instabilité, qui explique l'instabilité de nos États, c'est aussi dit que, bon, malgré le fait qu'on essaye de brandir l'idée que nous sommes indépendants, mais en réalité, nous ne le sommes pas, ou en tout cas, beaucoup ne le sont pas, même si certains tentent à devenir indépendants, comme par exemple le Mali aujourd'hui, s'il restait effectivement inscrit dans la voie qu'il a empruntée. Donc on peut espérer effectivement de voir peut-être même au-delà du Mali, d'autres pays africains, notamment de la sous-région, emboîter le pas. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'effectivement, il y a aussi une manipulation même du concept de démocratie de la part des pays occidentaux. C'est-à-dire, on fait brandir aux gens que vous êtes indépendants, vous êtes un pays démocratique, mais en réalité, cette démocratie ne sert que les pays occidentaux. J'aime rappeler aux gens qu'au fait, il y a deux principes majeurs, deux principes politiques majeurs pour les occidentaux. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la politique intérieure. Et là, effectivement, on parle de démocratie. Et la démocratie, on pourrait dire que même si elle est discutable, donc on essaie de faire quand même la démocratie à ce niveau. Mais il y a ce que j'appelle la politique extérieure. Et au niveau de la politique extérieure, et en réalité, il tombe dans la grande idée qui a été effectivement lancée par De Gaulle, qu'entre les pays, il n'y a pas d'amitié. Les pays ne sont pas des amis. Donc, quand il s'agit des relations extérieures, donc ce sont des rapports de force. Et souvent, ces rapports de force sont maquillés, déguisés en relations internationales, c'est-à-dire en droit international. Mais en réalité, ce droit international reste toujours contrôlé, manipulé par toujours les mêmes puissances extérieures. Cette affaire de terrorisme, en réalité, si nous essayons de voir, est-ce que, quelque part, est-ce que véritablement il y a le terrorisme? Parce que le Mali, quand même, a fait une plainte, n'oubliez pas, contre la France. Et le Mali dit que c'est la France qui finance le terrorisme, qui largue des armes à des terroristes. Donc, vous voyez, donc ce n'est pas seulement cette affaire-là. Je crois qu'il faudrait regarder de très près cette affaire. Je crois que pour ceux qui peuvent tirer les pays de la sous-région de cette affaire, c'est l'union, c'est-à-dire qu'il faudrait que tous les pays se donnent la main. Et quand vous voyez Damiba, quand vous voyez les autres pays, avant ces séries de coups d'État dans nos pays, je terminerai là, avant ces séries de coups d'État, c'est qu'à un moment donné, on refusait à ces pays de se donner les armes nécessaires pour faire face à la menace qui se pose à eux. Et donc, vous voyez, dans ces conditions-là, on est tenté. Et au-delà d'être tenté, si ce sont des officiels qui disent que nous avons des preuves qu'il y a un pays étranger qui entretient le terrorisme, je crois qu'il y a de quoi, effectivement, qui doit amener les pays africains à se donner la main, oui. En tout cas à faire en sorte que nous puissions faire face à cette menace qui n'est dans l'intérêt de personne.
Et si cette tentative de coup d'État au Burkina Faso se concrétise, est-ce à dire qu'on va vers une autre crise dans ce pays voisin?
Bon, si ça se confirme, moi je souhaite tout simplement que, parce qu'on ne sait pas exactement, parce que vous savez, les histoires de coup d'État sont assez compliquées. Et quand ça arrive, celui qui fait le coup d'État, il commence toujours par effectivement caresser la poêle quand même du peuple. Il est obligé effectivement d'avoir une base populaire. Et donc, il peut effectivement récupérer aujourd'hui tous ceux qui sont mécontents, les mécontents du régime de Daniba. Et je ne sais pas, beaucoup me l'a dit, moi je ne suis pas dans les secrets. Est-ce qu'il était pour la France? Est-ce qu'il était contre la France? Ça, je ne le sais pas trop. Mais ce qui est évident, c'est que ce qui est clair et certain, on ne l'a pas vu prendre la position ouverte. Et d'ailleurs, c'est ce que je reproche souvent à certains hommes politiques qui disent, ou même à certains leaders politiques, qui pensent qu'on peut combattre une puissance sans s'allier avec une autre puissance. Ce qui est vraiment une grande illusion. Je crois qu'effectivement, si c'était la position de Daniba nette de ne pas être ni avec la France, ni avec une autre puissance, alors qu'il veut donner l'indépendance à son pays, il veut donner la souveraineté à son pays, dans un premier temps, c'est extrêmement difficile. Comme on le dit dans notre langue jargon, que ça, donc il faudrait se cacher derrière quand même de quelqu'un de puissant aujourd'hui qui est la Russie. Même on peut dire beaucoup de choses. J'ai entendu un homme politique de pas de notre pays mais d'un autre pays voisin qui dit que il préfère ne pas rompre les relations qu'il a avec la France pour aller se foutre dans la main de la Russie parce qu'il trouve que la Russie est même plus dangereuse que la France. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui pousse à dire ça parce que moi je ne vois vraiment aucun argument qui puisse me montrer que la France est plus gentille. C'est pas parce que quelqu'un est doux ou il est une personne est douce que la personne ne fait pas du mal. On peut être doux tout en étant cynique, cruel, voire cynique. Donc je crois que c'est ça même le sens de la politique française. C'est-à-dire la France peut apparaître douce, mais au fond elle ne fait que si c'est le sang, effectivement, de nos compatriotes. Et j'espère tout simplement que celui qui a fait la tentative de coup d'État, si ça venait à se confirmer, j'espère tout simplement qu'il se rende du côté de son peuple et qu'il mène une politique qui puisse amener la dignité, la liberté, l'honneur et le bonheur au peuple burkinabé tout entier.
Ibrahim Bemlamata, qui vient de nous recevoir, qui est juriste, dites-nous aujourd'hui quel est le problème réel du Sahel infesté par le terrorisme.
Merci pour la question. Je tiens d'abord à m'excuser pour le retard accusé. Je salue vivement mes co-débatteurs. Par rapport à la question, le Sahel, dans sa généralité, est secoué par des séries de coups d'État. Et en plus de la mauvaise gouvernance qui gangrène nos États, le facteur terroriste vient mettre un coup d'accélérateur pour précipiter la chute des régimes. Parce que quand les populations voient des milliers, des centaines de personnes tuées par les terroristes, forcément, ils ne peuvent qu'indexer le premier responsable de la nation, qui est le président. Donc, ils vont demander des comptes jusqu'à ce que des militaires mécontents de la situation prennent leurs responsabilités pour renverser la tendance. Donc le Sahel, à mon avis, est délaissé quelque part par les Sahéliens eux-mêmes, parce que depuis le début de ce paradigme de terrorisme, je me souviens bien que le président Atété avait sollicité les pays voisins pour qu'il y ait une synergie d'action afin d'indiquer ce fléau. Mais fort malheureusement, il n'a pas été suivi. Donc il est arrivé ce qui est arrivé avec l'éclatement de la Libye. Toute la zone a été infestée par les terroristes. Donc il faut une synergie d'action que les Africains en général, le Sahel en particulier, comprennent que ce phénomène de terrorisme ne peut être vaincu que par la fédération de nos États. Donc un seul État ne peut pas, parce qu'en regardant l'évolution de ces gens, on voit qu'ils transitent facilement d'un État du Sahel à un autre. Donc ce qui donne une assez large zone de transit à ces gens. Nos territoires sont vastes, nos armées sont en pleine reconstruction avec des moyens assez insuffisants qui aujourd'hui commencent à aller petit à petit, notamment au Mali. Donc je pense qu'il faut une synergie d'action, que ce soit niveau Sahel et niveau international, avec surtout de la sincérité dans les coopérations.
Cette instabilité politique aggrave-t-elle la situation alimentaire de la sous-région ?
Bien sûr, quand on voit que le développement est conditionné à la sécurité, à la paix, et sans sécurité, on ne peut aller dans les champs, on ne peut prétendre faire quoi que ce soit. Donc, on a assisté au Mali à un phénomène l'an passé, celui de brûler les champs. Les terroristes se livraient à brûler les champs. C'est un grave danger pour la sécurité alimentaire. Les chiffres sont plus éloquents. On parle aujourd'hui de 4 millions de personnes en République du Mali qui sont dans un besoin d'urgence alimentaire. Ce qui est vraiment grave. Donc, tant qu'il n'y a pas la sécurité, tant qu'il n'y a pas la paix, on ne peut pas prétendre à un développement et la famine va persister.
Pour fermer cette page de l'instabilité politique au Burkina Faso, qui reste encore confuse au Burkina Faso, dans la capitale, Boubacar Boukoum, comment faire pour stabiliser la région?
Mais c'est très simple, il faut juste qu'on arrête d'être inféodé au système capitaliste. Parce que quand vous regardez dans le fond, les relations internationales sont adossées en réalité sur l'économie. Et l'Occident a eu cette malheureuse rencontre avec l'Afrique sur la base économique. Et c'est cette même réalité qui continue toujours. Donc le terrorisme n'existe pas, le sous-développement n'existe pas en Afrique. C'est un faux débat. Quand vous regardez le continent africain, c'est un scandale géologique. Alors, quand vous prenez la monnaie, l'économie réelle, c'est basé sur quoi? Sur la capacité de production, sur les réserves d'or, d'uranium, etc. Alors, vous regardez qu'effectivement, tous ces potentiels énormément existent. Mais comme l'a rappelé M. Mamata tout à l'heure, l'indice de développement humain et la famine est là. Pourquoi? Qui produit cet effet? Donc, c'est le capital financier mondial géré par des mafieux, ce que notamment le Premier ministre a appelé la junte française, parce que c'est un conglomérat de mafieux derrière un capital financier, qui font en sorte que le capitalisme fait financer le terrorisme, qui est un moyen de pression sur nos chefs d'État. C'est comme à l'époque quand Bob Denard était utilisé pour faire des coups d'État en Afrique. Aujourd'hui, on utilise la famine, on utilise le terrorisme pour amener les chefs d'État à fléchir, à accepter de signer des contrats bidons. Mais pourquoi on n'est pas d'accord avec nous-mêmes? Parce que chaque chef d'État africain de cette zone est mis en place par le maître. Donc, il ne va pas vous laisser vous mettre d'accord. Mais pourquoi on fait la guerre aujourd'hui à Assimi? Parce qu'on ne veut pas que les peuples, de façon volontaire, décident d'épouser l'idéologie de cette dignité et retrouvée et de cette grandeur de la société que nous tentons de restaurer. Alors, si on laissait la possibilité à chacun de dire, en tant que chef d'État autonome, indépendant d'un pays comme la Côte d'Ivoire, du Sénégal, nous serons fusionnels parce que nos réalités socio-économiques et culturelles sont les mêmes. Mais à cause du mécanisme de financement de nos États, parce que nous sommes arrimés à une monnaie, cette capacité financière que nous n'avons pas de contrôler et d'avoir la souveraineté économique, monétaire et financière, qui fait qu'effectivement nous sommes totalement dépendants de leur système, c'est eux qui dictent aux chefs d'État la conduite qu'ils doivent tenir. Donc du coup, tant que nous n'avons pas quitté ce paradigme en ayant une souveraineté économique, financière et monétaire, ça veut dire que nous n'aurons pas la capacité de développer l'économie réelle. On sera toujours tributaire du FMI et de la Banque mondiale qui vont nous imposer des dictats de non-développement en réalité. Parce que pour que vous appelez la FAO, si la faim est combattue, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de mener une action contre la faim. Si l'ONU est là, c'est parce que l'ONU même crée les conditions de sa propre existence, c'est-à-dire l'insécurité. Si les vendeurs d'armes sont là, on crée les conditions, c'est eux-mêmes qui financent quelque part la possibilité de créer des guerres en Afrique pour effectivement vendre leurs armes et maintenir la pression sur nos chefs d'État. Voilà la réalité. Donc, chaque fois que nous allons revenir, nous avons toujours la possibilité de rebelloter parce que simplement, nous n'avons pas quitté le fond du problème. Si nous essayons de résoudre les problèmes de façon superficielle, en essayant de changer de chef d'État, en essayant de dire qu'on fait quelques élections, le problème de fond n'étant pas résolu, c'est que c'est un phénomène cyclique qui va se répéter tous les 5, 10, 15 ou 20 ans.
D'accord. Bakabini Keïta, en un mot, comment y faire face à cette instabilité de la sous-région?
Non, d'abord, au fait, il faudrait voir le problème sous deux angles. Premièrement, sous l'angle du Sahel, globalement, de façon globale, Je pense que pour faire face à cette instabilité, il faudrait que les pays du Sahel se donnent la main. Il ne faudrait pas qu'on nous continuions à faire la même chose, les mêmes arrêts pour dire les mêmes erreurs qui ont été faites il y a depuis la résistance contre la colonisation, les périodes de la résistance. C'est-à-dire, j'apprends ça de l'ancien président Laurent Gbagbo qui disait qu'au moment où le colonisateur était là à combattre une tribu, et il s'alliait avec l'autre tribu et qu'il riait de l'autre, donc parce que lui, il est ami au colonisateur. Et donc, en oubliant qu'en finissant, c'était une stratégie du colonisateur, on vous divise et ensuite on vient pour vous gouverner tous. Donc on tue la première tribu, la tribu A, et après on s'attaque à la tribu B, ensuite la tribu C, jusqu'à faire le tour. Et donc malheureusement, des dizaines d'années après, en tout cas, ces erreurs-là, nous avons l'impression que nos chefs d'État continuent à faire la même chose. Moi, je ne prends même pas le problème sous l'angle de la couleur, parce qu'il y a beaucoup qui tombent sous cette erreur-là, en pensant que parce que nous avons tous la peau noire, et puisque nous avons la peau noire, nous sommes des frères. Non. En réalité, le problème, c'est un problème politique. Et ce problème politique, c'est quoi? C'est que nous avons les mêmes intérêts. Il faudrait voir le problème sous cet angle-là. Donc, en sachant que si aujourd'hui, on laisse le Mali dans la gueule, en tout cas des puissances étrangères, le Mali est neutralisé, mais les autres pensent qu'ils seront en paix avec ces mêmes puissances-là. Non. Mais si on venait, en tout cas, à conjuguer les efforts, à conjuguer les initiatives, les énergies, je pense qu'avec cette force-là, nous pourrons faire face à l'instabilité qui dont nos pays sont en proie. Maintenant, la deuxième chose, c'est à l'intérieur même du pays. Et on n'est pas arrivé à unir les gens au niveau de notre pays. Les gens ne sont pas en train de prendre conscience du danger qui guette notre pays à l'intérieur, parce que j'entends des gens critiquer par-ci, par-là. Et je ne suis pas contre que les gens disent ce qu'ils pensent, c'est-à-dire je ne suis pas contre la liberté de penser. Il faut librement penser, il faut dire ce que tu penses réellement, y compris aux gouvernants, mais il y a des canaux par lesquels il faut passer. Si on veut, comment dirais-je, dire ce qu'on pense, on peut écrire à un Premier ministre après un discours qu'il a tenu aux Nations Unies. Si moi j'ai des reproches à lui faire, je préfère ne pas aller à la télé pour parler, parce qu'on peut considérer ça comme étant du buzz, mais je peux par exemple lui adresser une note pour lui dire qu'à propos de tel endroit de discours, j'aurais voulu que vous faites comme ça, que vous faites comme ça, que vous faites comme ça. Mais si vous venez à la télé, donc, non, vous savez, les gens, je terminerai par là peut-être, vous savez, les gens pensent que la parole, c'est simplement de la parole, c'est simplement des mots. Or, j'aime tout le temps dire ça, que faites extrêmement attention. L'arme la plus dangereuse en politique, ou si vous voulez, c'est-à-dire que l'élément qui structure fondamentalement la politique, c'est la parole. Il n'y a pas d'action politique sans parole. Si le discours de Maïga ou comme tant d'autres discours ont eu des effets sur les hommes, c'est parce que c'est pour cette raison d'ailleurs nous parlons, parce que la parole a des effets sur les hommes, c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Et donc si son discours a eu des effets, qu'ils soient des effets positifs ou des effets négatifs sur les hommes, ça veut dire que le discours n'est pas que seulement des mots, que le discours en lui-même est une action. D'accord. Et que cette action effectivement peut transformer. D'accord. Un pays.
D'accord. Pendant ce temps, la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire, consécutive à la détention des militaires ivoiriens par Bamako, n'est toujours pas dénouée. Une délégation de chefs d'État était hier à Bamako pour négocier la libération de ces soldats, mais rien n'a filtré de leur discussion avec les autorités maliennes. Alors, quelle analyse faites-vous de la mission dépêchée par la CEDEAO à Bamako?
D'abord, cette affaire dénote d'une complexité à deux niveaux, le volet politique et le volet judiciaire. Maintenant, lorsque l'on décide de traiter la question sur le volet politique, ce qui naturellement explique la venue des chefs d'État, de la mission des chefs d'État, donc je pense que beaucoup de choses ont été faites sans succès. D'où cette fois-ci, la CEDEAO a décidé à ce qu'il y ait cela. Donc, contrairement à d'autres visions de la chose, ce point peut être un dénouement heureux pour la question. Donc, j'estime que ça sera vraiment quelque chose de potable qui va conduire à la libération des 49 militaires.
Alors, que peut-on retenir de cette visite de la CEDEAO au Mali?
D'abord, on ne peut même pas en retenir quelque chose parce que, comme vous l'avez dit, rien n'a filtré. Maintenant, on peut analyser. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces 46 militaires ivoiriens mercenaires, parce qu'il faut le préciser. Les gens ont l'impression de dire que quand on dit soldat, ça veut dire qu'on a occulté l'aspect.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une confusion? Tantôt, le Mali a dit soldat ivoirien, tantôt, on dit des mercenaires. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion même au sein de l'État?
Est-ce qu'on vous a dit quelque part, un soldat ne peut pas être un mercenaire?
Mais il faut utiliser un mot.
Non. C'est ça la nuance qu'il faut comprendre dans le discours. Quand vous judiciarisez un dossier, la qualification ne vous appartient plus, vous laissez le juge qualifier. Vous posez une plainte, la qualification relève de la justice. Quand on les a arrêtés, on a prétendu, il y a la présomption, on a prétendu que c'est des mercenaires parce qu'il y a un certain nombre d'actes posés. Mais c'est des soldats militaires, c'est des soldats ivoiriens. Cela n'a jamais été mis à mal par les autorités. On a toujours reconnu que c'est des soldats ivoiriens, mais qui sont dans une forme illégale et ils sont rentrés par une voie illégal. C'est ça, la qualification. Maintenant, une fois que l'aspect politique a pris le dessus, mais on n'envenime plus. On s'en tient à cette diplomatie qui va décider de trouver les angles qu'il faut pour arrondir et mettre les uns et les autres d'accord. Et la justice peut décider, sur la base des investigations, de dire effectivement c'est des mercenaires sur la base des preuves ou éventuellement ils n'y sont pour rien. Et ils sont relaxés. Donc, c'est deux discours différents. Donc, n'apportons pas la confusion. Ce n'est pas parce que quand on dit « c'est des militaires ivoiriens » qu'on occulte l'aspect qu'ils soient des mercenaires. Non, ça n'a rien à voir. En tout cas, si c'était le cas, ça voudrait dire qu'on les a libérés et qu'on ne les reproche rien. Donc, il est tout le temps clair dans l'esprit des autorités maliennes aujourd'hui que c'est des soldats ivoiriens considérés comme des mercenaires. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, l'aspect de la négociation, il faut aussi là aussi qu'on comprenne le sens de ce qu'on appelle une négociation. Ça veut dire que vous cédez une partie et l'autre partie aussi cède une partie. Et dans le monde, on a compris que toujours quand il y a un conflit, il y a un échange, soit de prisonniers, même quand il y a eu la guerre, il y a des échanges de prisonniers. Et il y a des moments où effectivement, on décide même de libérer des terroristes.
Donc vous faites allusion à ce que les autorités maliennes ont annoncé, une contrepartie de la Côte d'Ivoire, les Maliens
qui sont sous mandat de dépôt. Mais ça ne s'appelle pas une contrepartie, c'est une déformation professionnelle. Ce n'est pas de la contrepartie, ça s'appelle de la négociation. Quand aux États-Unis on libère des djihadistes pour obtenir la libération, ou qu'est-ce qui se passe en Iran? Aujourd'hui, vous avez des militaires américains qui sont détenus en Iran. On ne l'a pas amené aux Nations Unies. On négocie dans un contexte bilatéral. C'est ça la réalité. Maintenant, quand vous êtes face à une situation donnée, alors, vous voulez me dire que la Côte d'Ivoire va venir dire juste au Mali, écoutez, libérez, et puis rien ne s'est passé, on avance. C'est ce que ça veut dire. Sans condition, sans délai. Et vous les libérez, et puis c'est terminé. Non! Une négociation suppose que nous avons des intérêts partagés, imbriqués les uns dans les autres. Vous résolvez mon équation et je résous votre équation. C'est ça la négociation. Donc il ne s'agit pas de contrepartie. Mais pourquoi, Diantre, voulez-vous qu'on libère des mercenaires et on dit rien ne s'est passé et vous, en contrepartie, vous nous demandez. Donc ce n'est plus de la négociation. En ce moment, on rentre dans un cadre judiciaire. Alors si la Côte d'Ivoire veut que ce soit sur un axe judiciaire, là, ça veut dire qu'on arrête la négociation, on amène sur le plan judiciaire et la justice va décider effectivement si les faits se sont avérés être exacts, comme cela a été dit en amont, ça veut dire qu'ils seront condamnés. Dans le cas contraire, ils seront relâchés. D'accord. Donc de ce point de vue, je pense que ce n'est pas une histoire de négociation ou de genre de prise d'otage, comme cela a été dit par quelques autorités ivoiriennes. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit d'aller dans une négociation. Si vous ne vous voulez pas rentrer dans la logique de prise d'otage comme vous voulez interpréter les choses, vous restez dans le cadre strict de la justice. Et en ce moment, la justice dira ce qui est vrai.
D'accord. Voilà. Bakabini Keïta, comment peut-on comprendre que ni la délégation ni les autorités maliennes n'ont communiqué à ce stade, alors que la CEDEAO avait demandé au préalable une libération immédiate et sans condition?
Bien. Bon, moi je pense que ça se comprend parfaitement. Mais en attendant, je voudrais quand même me prononcer sur un certain nombre de choses, notamment la distinction du domaine du droit et du domaine politique. Cette distinction ne peut être validée que sur un plan formel, que du point de vue formel. Si nous sommes sur la forme, je comprends aisément qu'effectivement qu'on puisse séparer le droit du politique. Mais si on va dans le fond, surtout dans des affaires comme celui-là, il est extrêmement difficile, voire impossible, de dissocier le droit du politique. Et vous avez posé effectivement la question de savoir comment comprendre le fait que les autorités maliennes, tantôt ils emploient le mot militaire, tantôt ils emploient le mot mercenaire. Mais il l'a dit. À un moment où il y avait l'espoir que la situation pouvait, le dossier pouvait être géré de façon diplomatique, les Maliens, effectivement, avaient donné, décliné la bonne foi, en cessant, effectivement, de les nommer mercenaires. Parce que si vous voulez négocier avec quelqu'un, évidemment, il faudrait montrer la bonne foi. Mais dès lors que tu vois que celui avec qui tu veux négocier est monté d'un cran, évidemment, vous ne pouvez pas rester en bas. Vous voulez monter aussi. Donc, il y a symboliquement une stratégie de positionnement aussi dans la négociation. Et donc, c'est cette stratégie de positionnement dans la négociation qui fait que tantôt, les uns et les autres changent de position.
Quand vous avez dites vu que l'autre partie monte d'un cran, qu'est-ce que vous voulez dire?
Ce que je veux dire, concrètement, vous avez vu lorsqu'on a libéré les trois femmes pour des raisons humanitaires, disaient les autorités maliennes, et la Côte d'Ivoire a saisi de l'occasion pour dire que, donc, puisque ce n'est pas une affaire de justice, c'est une affaire politique, donc la Côte d'Ivoire a voulu revenir en arrière. Donc, a voulu rejouer le match. Parce que, donc, elle avait pris une mauvaise posture. Donc, elle avait pris une mauvaise position. Donc, elle a voulu se donner une position de supériorité. Et c'est pourquoi le Premier ministre malien, lorsqu'il est passé, effectivement, aux Nations Unies, donc, pour se donner, pour placer son pays à un niveau, en tout cas, profitable donc au Mali et aux Maliens, évidemment, est revenu, au lieu de dire militaire, il a parlé de mercenaires. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec cette logique. Mais il est clair que, comme beaucoup l'ont dit, ce n'est pas une affaire de chantage. Même le terme « otage » et « étrique », peut-être pour ceux qui sont novices, en fait, dans des dossiers comme de ce genre, dans des notions de ce genre, évidemment, peuvent mal comprendre cet état de fait. Mais j'ai dit que ce sont l'emploi de chaque mot et va dans le sens, à mon avis, d'une stratégie de négociation, évidemment, par rapport au dossier. Moi, c'est ce que j'ai dit. Au fait,
les gens s'inquiètent. Dans ce cas, peut-on parler déjà d'un échec ou espoir de la mission de la CEDEAO?
Non, il est difficile de parler d'échec ou d'espoir pour le moment, puisque, comme il a dit, rien n'a filtré. Mais ce que je comprends, évidemment, même si rien n'a filtré, il a dit, on peut analyser, donc on peut, évidemment, formuler des hypothèses. Et donc, l'hypothèse qu'on peut formuler, c'est qu'après le discours, et après l'escalade, je vais dire, de part et d'autre. Et donc, on est venu écouter les autorités maliennes. Quelle est leur position par rapport à jusqu'à preuve contraire par rapport au dossier? Donc, quand on recueille la position des autorités maliennes, il va falloir évidemment retourner et revoir avec les autorités ivoiriennes et avec, bien entendu, les partenaires de la CEDEAO, apprécier les informations qui ont été obtenues à partir de Bamako. Et donc, c'est à partir de là qu'une décision peut être prise. Certainement qu'arrive avant de venir, parce qu'il y a des chefs d'État, c'est leur première fois, effectivement, même s'ils sont au courant de ce dossier, mais c'est leur première fois de se déplacer. Parce que le Mali aussi dit qu'il a des preuves. Et donc, certainement, il n'avait pas la matérialité, en fait, de ses preuves. Ses preuves, peut-être, c'était dans le discours, mais dans les faits. Donc, il s'attendait, effectivement. Donc, certainement, ça peut les amener, ça peut amener ces gens-là, évidemment, à revoir un peu leur position. Ouais. Donc, moi, je pense que cette affaire de 46 militaires, désormais, au lieu de 49, je crois qu'il n'y a pas d'autre issue que l'issue politique.
D'accord.
Il y a des gens qui s'inquiètent. Mais je ne vois pas comment la Côte d'Ivoire, si Ouattara la Côte d'Ivoire voulait attaquer le Mali depuis le départ, en réalité, il aurait pu le faire il y a longtemps.
D'accord.
Et donc, s'il ne l'a pas fait.
Pour ne pas dire la France.
Oui, pour ne pas dire la France, et peut-être au-delà de la France, pour ne pas dire l'OTAN. Mais vous savez, une telle attaque est impossible sans passer par le Conseil de sécurité.
Vous aurez la parole tout de suite. Ibrahim Ben Mamata, est-ce à dire, il n'y a aucune déclaration ni de commentaire après les échanges avec le président de la transition, des échanges à huis clos. Est-ce à dire que la situation a dépassé la mission de pêcher sur le terrain?
Pourquoi il est trop tôt pour le dire? Parce que personne ne sait ce qui s'est dit, ce sur quoi ils se sont convenus. Voilà. Donc, on ne peut pas prédire cela sans qu'il y ait un communiqué ou quelque chose du genre pour informer l'opinion. Mais par ailleurs, j'aurais voulu revenir un peu en arrière pour faire le distinguo par rapport à certaines notions utilisées. Mercenaires dans le contexte où, judiciairement, ces militaires ne peuvent être considérés comme des militaires, des mercenaires, pardon, au regard des différents communiqués produits par même le procureur du pôle. Donc, mercenaires, ça implique quelque chose d'assez consistant, qui n'existe pas dans le droit malien, mais qui se retrouve dans la charte de l'OIA concernant le mercenariat. Et ceci est défini dans son article premier. Et c'est le gouvernement malien s'était appuyé sur cet article-là pour considérer dans un premier temps ces militaires de mercenaires. Mais en regardant, c'est-à-dire cet article, on voit que les éléments essentiels constitutifs ne sont pas réunis en l'état pour appeler ces gens-là des mercenaires. Ça, c'est sur l'aspect juridique. Juridiquement, on ne peut pas qualifier ces gens de mercenaires. Politiquement, oui, parce que la politique étant un rapport de force. Aujourd'hui, l'affaire, moi, j'estime que c'est purement politique. Au Mali, on a cette habitude de voir lorsque des affaires politiques venaient à atteindre un certain niveau, on parle de judiciarisation.
D'accord.
En droit, la judiciarisation d'un dossier, c'est un blanchiment.
D'accord. Ceci étant, une affaire judiciaire peut-elle être réglée politiquement?
Tout à fait, tout à fait. Plusieurs raisons peuvent indiquer cela et ça met en mal cette notion même de la souveraineté et de l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, avec cette affaire, mais je n'aimerais pas du tout être à la place des magistrats qui ont en charge ce dossier parce qu'on voit l'empiétement de l'exécutif dans le judiciaire, ce qui donne un sacré coup à l'indépendance de la justice. Quelle est la place du juge ou bien de la justice dans ce système? Voyez-vous le précédent que ça crée de judicialiser des affaires politiques? On met mal à l'aise des magistrats. Or, les mandats avaient été émis. Est-ce que ces mandats ont été exécutés comme ça se doit? Est-ce qu'on a donné les moyens nécessaires aux magistrats maliens d'aller à l'extérieur pour essayer d'appréhender nos gens qui sont aujourd'hui recherchés par la justice pour des affaires ici au Mali? Donc, même l'échange dont il est question, dans le système judiciaire malien, on ne peut pas échanger des gens. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour vous renvoyer une fois de plus au caractère politique de l'affaire.
La médiation togolaise est-elle mise à l'écart, en doute par la CEDEAO dans ce cas?
Non, je ne pense pas. Je pense que c'est un processus. On a voulu monter d'un cran. Comme il a dit, c'est une question politique, donc hautement politique. La vraie raison, elle est connue. Hein. Tout ce qui se passe, judiciaire, chevauchement, état de droit, tout ça, on sait que c'est du briques et du broc. C'est pas vrai. Et dans le contexte d'un coup d'État, on ne peut même pas parler de justice en tant que telle indépendante. Même dans les systèmes démocratiques, on a compris que nos justices sont toujours inféodées à l'exécutif. Donc la séparation des pouvoirs en tant que telle, ce n'est même pas une réalité dans nos pays africains de façon générale. Donc je pense que le problème aujourd'hui, c'est de dire qu'effectivement, le problème, il est politique. Les chefs d'État qui sont arrivés aujourd'hui, certainement, ils ont eu beaucoup d'éléments d'appréciation qui les ont permis de comprendre le fond et le bien fondé de la posture du Mali.
D'accord.
Donc, ils ne peuvent pas faire une déclaration de façon officielle et tenir leur première position qui était de libérer sans délai et sans condition. Donc, la substance est là.
Comme vous dites que c'est politique, dans ce cas, une grâce présidentielle est-elle possible?
Tout est possible, c'est politique. Même cette justice, elle est politique. Judiciariser, là, ça veut dire quoi? Quand aujourd'hui aux États-Unis on arrête des gens, on va les mettre à Guantanamo pour dire que c'est des musulmans, c'est des terroristes. Mais c'est quoi? C'est parce que c'est politique, parce qu'il y a un combat idéologique qui est là. Et on instrumentalise tous les instruments à la disposition de l'État, c'est le pouvoir public. On trouve les mécanismes et les astuces nécessaires pour les utiliser.
D'accord. En un mot, comment éviter le pire dans ce dossier?
Non, moi, je pense que d'abord, il faut comprendre la distinction entre politique et droit. Je crois qu'il faut, il faut comprendre qu'au-delà de la politique et du droit, il y a ce qu'on appelle la raison d'État. Et c'est là où on peut effectivement parler de la prévalence du politique sur le droit, du pouvoir sur le droit. Et ce n'est pas propre à nos États. Par contre, ce n'est pas propre à nos États. J'ai l'habitude, effectivement, dans ce studio, de rappeler que dans l'affaire qui a été appelée en France sous Giscard d'Estaing, l'affaire de Grégory, un jeune homme qui a été enlevé et tué, il y a un innocent qui a été arrêté, jugé, condamné, exécuté. Ça semble bien, et les hommes de droit, les hommes de pouvoir savaient très bien que ce n'était pas lui le coupable, et pourtant on l'a fait, c'était pour calmer la tension qui était là. Et donc c'est pour vous dire que cette affaire-là, on ne peut pas dissocier le pouvoir, donc la politique du droit, à un moment donné de la vie d'une nation. Et ça ne veut pas dire que l'exécutif veut empiéter le droit, mais il y a quelque chose qui est au-delà de l'exécutif et du droit, à savoir le pouvoir du peuple.
C'est sur vos mots que prend fin ce débat qui réfléchissait sur l'instabilité politique au Sahel, comment y faire face. Et nous étions avec malheureusement Cheikh Oumar Doumbia, qui est politologue, qui malheureusement ne nous a pas rejoint, Bakabini Keïta, directeur de l'Observatoire du pouvoir et de la société, Boubacar Bokoum, analyste politique et président d'un parti politique, Ibrahim Ben Mamata Touré, juriste. À la présentation, je suis Imrana Akilou Maïga, régie vidéo Mamadi Keïta, et à la mise en onde Gagny Kanté. Ce débat a été coordonné par Sekou Gadjigo. Merci et à demain.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba. Edouani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chien Libéry.
Haloud Mandi.
Chien Libéry.